France Inter.
Professeur de littérature américaine à l'université Paris-Nanterre et président de la Société d'études modernistes, Benoît Tadier est spécialiste du polar américain et de l'œuvre de James Joyce. Il a notamment publié au PUF « Le polar américain, la modernité et le mal » et « Front criminel, une histoire du polar américain de 1919 à nos jours ». Traducteur de Raymond Chandler, Horace McCoy, T.S. Eliot et James Joyce, il a édité les quartos de William Riley Burnett et d'Horace McCoy, dont il a préfacé et traduit dans la série noire Les Rangers du ciel. De Burnett, il a préfacé Little Caesar et Goodbye Chicago 1928, fin d'une époque. Bref, c'est l'invité idéal pour célébrer les 80 ans de la mythique collection série noire des éditions Gallimard, développée de main de maître en son temps par Marcel Duhamel. Ajoutons que Benoît Tadier vient de signer, après Boris Vian, la nouvelle traduction d'un de mes romans préférés, Le Grand Sommeil de Raymond Chandler, et qu'il en signe la préface ainsi que celle de Tirer sur le pianiste de David Goodis, Un linceul n'a pas de poche d'Horace McCoy et À contre-voix de Gertrude Walker, ouvrage récemment réédité dans la collection Série Noire Classique. À j'oubliais, il a également participé au formidable ouvrage collectif illustré C'est l'histoire de la série noire, paru en 2015 et que j'ai abondamment utilisé pour préparer cette émission. J'ai dit 5 fois série noire en un seul paragraphe, 6 fois maintenant. Je vais songer à demander des droits. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Benoît Tadier.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Du point de vue de la série noire, c'est probablement un roman que je viens de lire de Saïd Katibi qui vient de paraître et qui s'appelle La fin du Sahara. On est dans le très contemporain.
Et dans le pessimisme aussi ?
Et on est dans le pessimisme. C'est situé en 1988 en Algérie, donc un peu avant la décennie noire. Et donc voilà, à travers cette histoire criminelle, ce sont un peu les prémices de cette période difficile qui s'annonce.
Vous avez écrit sur l'expérience moderniste anglo-américaine. Quel est le rôle de la Société d'études modernistes que vous présidez ?
Alors, elle n'a pas grand-chose à voir avec tout cela. Elle s'occupe essentiellement d'encourager les études, les recherches et les échanges autour du modernisme anglophone en France, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en France plutôt les avant-gardes des années 20 et 30, des écrivains comme ceux que vous avez cités, James Joyce, T.S. Eliot et autres. Mais je dois dire qu'en ce qui me concerne, je considère que le roman noir des débuts, celui des années 20 et 30, fait partie de ce mouvement moderniste et à sa manière des avant-gardes aussi. Disons, sur un plan plus populaire, c'est un petit peu l'équivalent.
Oui, parce que justement, c'était en vous intéressant à Joyce et à ce qui se passait dans des magazines populaires que vous étiez rendu compte que c'était deux mondes cloisonnés par les spécialistes.
C'est deux mondes cloisonnés par les spécialistes, mais qui ne sont pas en fait si cloisonnés que ça. Si on pense par exemple qu'ils appartiennent tous les deux au monde des magazines des années 20 et 30, c'est dans les magazines que paraissent aussi bien l'avant-garde que la littérature populaire de genre. Ce ne sont pas bien sûr les mêmes magazines souvent, mais il y a quand même des échanges, beaucoup d'échos, et des auteurs qui peuvent travailler à plusieurs niveaux différents et dans divers types de magazines différents. Donc je pense qu'effectivement, on gagne beaucoup à essayer de réfléchir à tous les échos qu'il y a entre cette culture élevée et d'avant-garde qu'est le modernisme, et puis la culture populaire qui s'incarne en particulier dans le roman noir des années 20 et 30 aux États-Unis.
Est-ce que pour vous, la langue influence le style ? Est-ce que les phrases sont plus courtes en anglais ?
Alors, dire qu'en anglais, les phrases sont plus courtes, ça serait un petit peu délicat, parce qu'il y a des écrivains qui ont de très longues phrases, si on pense à Henry James, par exemple. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a effectivement une sorte de refus de la rhétorique qui se met en place et qui se manifeste aussi bien chez des auteurs comme Dashiell Hammett, le grand fondateur du roman noir américain, que chez son contemporain Ernest Hemingway. D'ailleurs, ils se connaissaient et s'appréciaient mutuellement, qui a un style équivalent et qui d'ailleurs écrit aussi des histoires criminelles. Mais lui, il opère plutôt justement dans des revues d'avant-garde, et donc il est consacré comme un grand écrivain, ce qui n'est pas forcément le cas des auteurs de Polar, mais finalement il y a énormément d'affinités, on peut dire, entre le style de Hemingway et le style de Hammett, si bien d'ailleurs que les spécialistes se sont souvent demandé lequel des deux venait avant l'autre, sans jamais trouver la réponse à cette question.
D'ailleurs, Les Tueurs, c'est un film de Siod Mack qui est inspiré d'une nouvelle d'Hemingway, et c'est un film noir merveilleux.
Absolument, et d'ailleurs c'est une nouvelle noire merveilleuse, alors bien sûr elle est courte, donc le film a inventé toute une histoire pour suppléer à ce qui n'est pas dit dans la nouvelle. Et comme on sait, le propre de Hemingway, c'est de ne pas dire, c'est de laisser deviner beaucoup de choses et de dire le moins possible. C'est un petit peu ça, c'est la marque de son génie. Mais je pense que c'est aussi la marque du génie de l'époque, qui est justement de dire le moins possible. À une époque où justement les mots ont perdu leur valeur, après la Première Guerre mondiale, on se rend compte que les beaux discours ne représentent plus grand-chose, si ce n'est des mensonges. Et donc on s'attache à dire le moins possible, de la manière la plus froide et clinique possible. Et c'est ce qu'on retrouve à la fois, disons, dans la grande tradition noire du roman et du cinéma, que chez Hemingway.
Alors Benoît Tadier, vous êtes spécialiste des anglo-saxons, mais trouvez-vous les imitations américaines par des Français convaincantes? Je pense notamment à Boris Vian, qui s'appelait Vernon Sullivan pour ses polars, ou alors le premier auteur français de la série noire, Terry Stewart, auteur de La mort et l'ange, mais dont le vrai nom est Serge Arquette.
Absolument, qui était d'ailleurs un bon écrivain. Alors pour ce qui est de Vian, je pense que, même si Marcel Duhamel dit s'y être trompé, je crois qu'on ne pouvait pas vraiment s'y tromper. Quand on lit le roman de Vian, on se rend compte que c'est quand même une sorte de fabrication, notamment parce que, un peu comme d'ailleurs les premiers romans de Peter Cheney ou James Hadley Chase, qui étaient des Britanniques qui faisaient aussi du pseudo-américain, ça ne s'incarne pas de manière très précise dans des contextes géographiques et sociaux. Ça reste une sorte d'imitation de pastiche brillant. Et puis chez Vian, il y a aussi quelque chose qui n'aurait pas passé à l'époque aux États-Unis, c'est une violence exacerbée qui aurait immédiatement fait censurer un tel livre. Qui est bien au-delà de ce qui était permissible en Amérique. Donc il a fait en fait du roman noir au carré, si on peut dire. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas convaincant, mais c'est quand même très brillant. Je suis un peu plus sceptique sur les premiers auteurs de la série noire français qui écrivent à l'américaine, comme justement Serge Arquette, ou comme juste après lui d'ailleurs Jean Amila,
bien sûr,
Jean Mekert, qui sont également des auteurs intéressants. Je pense aussi d'ailleurs à Léo Mallet, qui avait fait des choses pas mal au départ à partir de l'américain. Mais c'est justement quand ils arrivent à se déprendre du modèle américain qu'ils deviennent intéressants, je pense. On voit très bien ça dans 120 rue de la Gare, pardon, chez Léo Mallet, qui est son premier roman français. Et c'est quand il parle de l'occupation de Lyon, de Paris, qu'on trouve vraiment une valeur historique et littéraire beaucoup plus intéressante que quand il signait des romans Léo Latimer ou Frank Harding et qui faisait du pseudo-américain.
La 20e heure, Eva Bester sur France Inter.
Bon, et si vous nous parliez maintenant tout de même de la série noire?
Eh bien, j'ai été mis sur le chemin, si je puis dire, de la série noire au début par Marcel Achard, qui m'a fait connaître Peter Cheney. Hemingway lui-même m'a suggéré des noms d'auteurs américains et c'est là que j'ai fondé la série noire chez Gallimard.
C'est vous qui avez eu l'idée du titre de série noire?
Non, c'est Jacques Prévert. J'ai été pris à partie justement à propos de cette série par certains critiques qu'à l'occasion de la sortie au Grand Guignol, toujours de cette pièce de Pas d'Orchidée, n'est-ce pas? L'un d'eux a prétendu que j'avais la bosse du commerce. D'abord, je tiens à déclarer que je ne trouve pas ça spécialement déshonorant et d'autre part, si avoir la bosse du commerce consiste à savoir choisir de bons livres, alors je veux bien.
Je suis avec le professeur de littérature américaine et traducteur Benoît Tadier pour célébrer les 80 ans de la série noire, collection mythique fondée en 1945 par Marcel Duhamel, qu'on entend en 1950 sur la RTF au micro de Pierre Fromentin. Marcel Duhamel, ami de Queneau et de Prévert, c'est Prévert qui a trouvé le titre série noire, a incarné la collection pendant 33 ans. Robert Soula lui a succédé, enfin je ne vais pas faire toute l'histoire de la série noire. Son épouse a imposé la couverture noire au liseré jaune. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Benoît Tadier, les deux premiers à avoir été publiés, c'était des Britanniques, c'était Peter Cheney et James Hadley Chase. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la série noire? Parce qu'il y avait d'autres collections avant, Détective, Le Scarabée d'Or.
Absolument. Je pense que ce qui fait la spécificité par rapport aux collections d'avant-guerre, comme celles que vous citez, ou comme les chefs-d'œuvre du roman d'aventure, où d'ailleurs avaient paru certains des auteurs de la série noire une première fois, qui seront ensuite repris, comme Raoul Whitfield, comme Dashiell Hammett. Mais ce qui fait la spécificité, justement, c'est que ce n'est pas une collection éclectique. C'est une collection qui se centre sur l'histoire criminelle violente et plus du tout sur le roman à énigmes, avec des histoires de détectives, de chambres closes, etc. Et de raisonnement. Là, on passe au contraire à un autre type d'histoire, qui est une histoire, on peut dire, d'aventure criminelle, pour dire les choses de manière simple. Et une histoire aussi qui est écrite dans un style beaucoup plus vernaculaire, qu'accentuera d'ailleurs souvent la traduction de la série noire en, disons, transposant tous les styles différents des livres américains qu'elle traduit dans un argot assez caractéristique et pas toujours très réaliste d'ailleurs, mais qui ancre vraiment cet univers dans, disons, un univers socialement assez assez prolétarien, on pourrait presque dire, par rapport à la tradition un peu plus britannique, un peu plus snob du roman à énigmes avec ses détectives qui sont plutôt des esthètes et des dilettantes à la Holmes ou à la Poirot. Donc voilà, je pense que pour dire les choses de manière très simple, c'est ça, c'est une histoire et qui est par ailleurs souvent tragique, qui est une histoire qui ne finit pas forcément bien, surtout quand à partir de, par exemple, de romans comme Le Petit César de Burnett, s'imposent des histoires de gangsters ou de criminels et pas forcément des histoires de détectives. Et là, on est effectivement dans des parcours d'ascension et de chute brutale qui montrent finalement que ceux qui partent avec pas beaucoup de chance dans la vie finissent en général assez mal.
Alors, il y a beaucoup de refusés dans cette série noire. Marcel Duhamel, par exemple, trouve les intrigues de Léo Mallet, donc le créateur de Nestor Burma, trop fantaisistes pour la série noire. Et il a assez vite, Marcel Duhamel, une vitesse de croisière de 2 titres par mois. Ce qui est délirant. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur Marcel Duhamel, qui a écrit son autobiographie qui s'appelle « Raconte pas ta vie » et dont on voit les correspondances dans le catalogue sur l'histoire de la série noire, des correspondances assez drôlatiques où parfois il parle en argot, mais pour demander des moyens.
Absolument. Alors c'est quelqu'un de tout à fait passionnant parce qu'il est justement, on en parlait tout à l'heure, au carrefour des avant-gardes et de la littérature populaire. C'est un ancien membre du groupe surréaliste, puisqu'il était ami de Prévert, d'Yves Tanguy surtout. Ils habitaient ensemble rue du Château dans les années 20 et 30. C'était un ancien manager d'hôtel. Il avait vécu un peu en Angleterre, aux États-Unis. C'était un très bon angliciste, contrairement à la plupart des gens de sa génération. Et en même temps, il avait découvert tout cet univers de la littérature criminelle américaine assez tôt, puisqu'il avait déjà traduit Burnett et qu'il avait traduit Whitfield et aussi le grand Wolfson qu'il avait découvert, ce roman magnifique qui s'appelle Corps perdu. Il avait traduit tout ça dès le début des années 30. Il avait été aussi doubleur au cinéma pour les films de la Warner dans les années 30, ce qui lui avait donné un sens du dialogue et de la concision qu'on n'avait pas forcément tous ses contemporains. Donc il était parfaitement armé pour sentir, disons, à l'époque où, après 1944-45, il y avait un grand désir de culture américaine authentique. Il avait pensé et qu'il pouvait jouer ce rôle de passeur et il l'a joué admirablement. Donc ça a été vraiment quelqu'un qui a trouvé un filon, et dans ce filon, il y avait énormément de trésors qu'il a su transmettre à travers cette collection, qui effectivement au départ commence avec un débit assez modeste, puisque en 3 ans, il n'y a que 6 titres qui paraissent. Et puis tout d'un coup, voyant que ces titres se vendent bien, voyant l'intérêt aussi de l'effet série, Gallimard, associé à Hachette, crée donc cette collection, plutôt l'assoit comme une société, disons, partagée entre Hachette et l'édition Gallimard, et décide de confier à Duhamel non plus seulement un rôle de, disons, découvreur de talent ou traducteur, mais vraiment de directeur de collection chargé d'alimenter et rémunérer d'ailleurs en conséquence une collection qui doit passer, disons, à un régime beaucoup plus important. Et à partir de là, effectivement, on passe à 2 titres par mois, mais ensuite, on passe à beaucoup plus, 7, 8, 100 titres par an, avec des tirages qui n'auront de cesse d'augmenter, puisqu'on arrivera assez rapidement à des tirages de 30 ou 50 000 exemplaires, et parfois, au fil des réimpressions, des auteurs comme Cheney ou Chase ne descendent jamais, mais en dessous de 100, 120 000 exemplaires vendus, ce qui aujourd'hui fait rêver, bien sûr.
Oui.
Donc, voilà, c'est une affaire qui roule, et très vite, il faut développer tout cela, et la manière dont Duhamel s'y prend pour trouver des auteurs, disons, d'une part, c'est effectivement les tout premiers, ce sont ces Anglais qui sont signalés par son ami Marcel Achard et qui assureront d'ailleurs le lancement de la collection. Chase est un écrivain très brillant, même s'il a parfois été décrié parce qu'il n'est pas américain, c'est un excellent auteur. Cheney, il est très amusant parce qu'il a un usage très inventif de l'argot qui n'a rien à voir avec le vrai argot américain mais qui quand même fait beaucoup rire. Et puis à partir de là, ça tourne un peu court, donc il se tourne vers Hemingway dont il avait été l'interprète en 1944 quand Hemingway libérait Paris et notamment le bar du Ritz, ils étaient ensemble à ce moment-là. Et Hemingway lui conseille quelques grands écrivains de romans noirs des années 30, comme Horace McCoy, comme Jonathan Latimer ou comme Don Tracy, qui sont les 3 premiers Américains avec Chandler qui seront publiés dans la série noire.
Come closer. I want to talk to you. I'm going to tell you an astounding story. The story of the Maltese Falcon. I could tell you 1,000 tales of the men and women who have hunted this evil bird. But every story has the same ending. Murder.
1941, Le Faucon Maltais de John Huston, adapté du livre éponyme de Dashiell Hammett, le grand inventeur du roman noir et surtout ancien détective. Donc il apporte une vision réaliste de la criminalité urbaine. Qu'est-ce que vous nous recommandez pour commencer de sa plume, Benoît Tadier, La Clé de Verre, Le Faucon Maltais, La Moisson Rouge ?
tout, évidemment, mais je commencerai peut-être par La Moisson Rouge, qui est son premier roman, et qui est celui qui est le plus canonique, on peut dire, puisqu'il s'agit du nettoyage d'une ville pourrie par un détective qui, ne pouvant pas tout seul désinguer tous les chefs de gang qui se disputent la ville, les dresse les uns contre les autres, et crée un véritable carnage. Je pense que c'est un scénario fabuleux, c'est un roman qui a un rythme extraordinaire, qui est en même temps assez drôle dans sa violence, et qui transforme complètement tout ce qu'on peut imaginer à l'époque être un roman policier. D'ailleurs, quand il est publié chez Knopf, après être paru dans la revue Black Mask, l'éditrice Blanche Knopf imposera une censure en disant « il y a trop de morts, c'est pas possible d'avoir autant de cadavres, il faut en éliminer quelques-uns ». Donc, il en élimine quelques-uns, mais il en reste quand même pas mal.
Alors, il y a beaucoup d'écrivains de la série noire qui ont été approchés par Hollywood. Il en fait partie, comme Raymond Chandler, et je crois qu'en fait, les deux n'ont pas eu de bonne expérience.
Non. Alors, Hammett, particulièrement mauvaise, puisqu'en fait, c'est à peu près au moment où il va à Hollywood qu'il cesse d'écrire, disons, pour dire les choses de manière un peu schématique. Il écrit encore quelques scénarios, quelques nouvelles, mais il a une espèce de grande panne. C'est probablement dû aussi au fait qu'à Hollywood, on se disperse, on a des contrats fabuleux, on gagne beaucoup d'argent. Il s'investit aussi dans des activités politiques. C'est l'époque où il rejoint le Parti communiste. C'est un grand militant antifasciste. Il devient même chef de la Ligue des écrivains américains, qui était très proche du Parti communiste avant la Deuxième Guerre mondiale. On sait que ça lui coûtera très cher après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il fera même de la prison pour cela. Mais voilà, je crois que dans le cas de Hammett, c'est un petit peu ça. C'est une sorte de déperdition d'énergie due à cet univers, finalement, trop glamour qu'était Hollywood, où le moindre droit de, disons, d'adaptation radiophonique vous rapporte beaucoup plus que la vente d'un roman dans une édition reliée ou par un magazine. En ce qui concerne Chandler, c'est un peu différent, parce que Chandler a continué, lui, à produire une œuvre importante à Los Angeles. Il ne faut pas oublier que contrairement à Hammett, il vivait à Los Angeles depuis très longtemps, depuis 1912, où il s'était installé, à l'époque où il s'était installé dans cette ville, qui d'ailleurs était à l'époque une petite ville où Hollywood n'existait même pas encore en tant qu'industrie cinématographique. Donc il a toujours regardé d'un œil assez méfiant la croissance, disons, du système du cinéma autour de lui, qui a à peu près tout envahi, tout vampirisé, et quand lui-même est devenu scénariste, notamment pour ce film admirable qui est Double Indemnity, Assurance sur la mort, un des grands chefs-d'œuvre du film noir mis en scène par Billy Wilder. Il a toujours vu, finalement, d'un assez mauvais œil la manière dont il était traité, notamment parce qu'il disait « on est très bien payé, mais on ne respecte pas notre travail ». Et pour ça, d'ailleurs, il a écrit un article au Vitriol qui s'appelle « Écrivain à Hollywood, Writers in Hollywood », où il assassine complètement le système qui, dit-il, couvre les écrivains d'or, mais les traite finalement vraiment comme de la vermine. Et donc, il a toujours maintenu ses distances, et je pense que c'est un petit peu grâce à ça qu'il a réussi finalement à maintenir sa capacité de création littéraire.
Le doule, c'est le chapeau. Et le porteur de doule, c'est le doulos. Si Lien porte le doule, c'est-à-dire qu'aux yeux des gens du milieu, il en croque.
Je crois qu'on n'a plus rien à se dire, il est tard.
Attends, on a autre chose à te demander.
Faut pas me confondre avec les gens qui rentrent dans votre bureau en marche arrière. J'en croque pas, moi.
Le doulos est un indicateur de police.
Passez-moi l'inspecteur Salignari.
Qui m'a balancé?
Le doulos, une tragédie du mensonge. Le mystère à l'état pur. Un homme pris au piège.
Les séries noires sont les héritières des pulps. On a dit parfois que c'était des romans de gare, et pourtant quand même on trouve énormément de très grands écrivains dedans. Je rappelle que les séries noires étaient appréciées par Deleuze, Sartre, Gide, Malraux, Camus, Larbaud, que Simone de Beauvoir qualifiait l'œuvre d'Horace McCoy d'existentialiste, que Camus a été influencé par Le facteur sonne toujours deux fois de James Kane, et que Jean-Luc Godard a adapté trois séries noires, Jean-Pierre Melville, un de mes chouchous, deux, et là on entend un extrait du Doulos, sorti en 62 et adapté de l'ouvrage de Pierre Lessoux, écrit à 27 ans, c'est le plus jeune auteur de la série noire.
Oui, et qui est un peu oublié aujourd'hui, à tort d'ailleurs, parce qu'effectivement c'est une très belle histoire, même si peut-être le langage a un petit peu vieilli aujourd'hui, mais en tout cas, telle qu'elle est transposée par Jean-Pierre Melville, ça donne vraiment un des grands chefs-d'œuvre du cinéma policier français, américain, enfin universel, on pourrait dire. Et puis vous entendez la très belle musique de Paul Mizrahi à l'arrière, qui ne gâche rien.
Il y a une fascination en plus des Français pour l'Amérique à l'époque de l'essor de la série noire.
Absolument. Alors, le cas de Melville le montre très bien, puisqu'il n'a eu de cesse, justement, qu'à essayer de transposer le cinéma américain, notamment celui de John Huston, de Quand la ville d'or, dans son propre cinéma.
Il voulait être américain, même avec son Stetson et
absolument,
ses lunettes.
Même son nom de Melville, oui. Hein, qu'il avait repris au grand écrivain Herman Melville. Donc oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs ça qui donne cette prodigieuse lancée à la collection. C'est un appel d'air. Hein. Pendant, il ne faut pas oublier que pendant l'occupation, les Français avaient été privés de culture américaine. Ils n'avaient droit qu'à des ersatz, comme ceux de Léo Mallet, par exemple, qui faisait du faux américain. Et tout à coup, le vrai produit arrive, les vrais films, la modernité, la violence, l'action, le rêve. Enfin, je pense que c'est aussi une époque où on n'est pas... c'est avant la guerre du Vietnam, avant toutes les grandes divisions idéologiques des années 60. L'Amérique a vraiment, disons, une image extraordinaire de, à la fois de vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, et puis de progrès, et puis de, voilà, de beauté, de richesse. Enfin, ça fait rêver, oui.
Là, vous venez de dire le mot progrès et vous soulignez justement qu'outre-Atlantique, le polar a longtemps porté l'espoir d'une société plus égalitaire. La langue des héros dans la série noire, c'est la langue du peuple.
Absolument. Et ce que disait d'ailleurs le grand écrivain Ross Macdonald, c'est que finalement, ce dont rêvait ou ce dont rêve le genre lui-même, au-delà des écrivains, c'est l'idée d'une société sans classe où tout le monde parlerait la même langue. C'est un rêve qui, bien sûr, se heurte à la réalité. Et on peut dire que d'une certaine manière, c'est la contradiction qui s'incarne dans tout roman noir, celle entre une conception égalitaire et démocratique de l'existence et puis une réalité qui justement résiste à cette conception égalitaire ou à ce rêve de démocratie, et d'où la fin tragique effectivement de beaucoup de romans noirs.
Mais les romans noirs ont participé à la prise de conscience collective et à la reconnaissance culturelle des minorités.
Absolument. Alors c'est le cas notamment par exemple des écrivains afro-américains hein, comme Chester Himes, un très grand écrivain de romans noirs, un des plus grands, qui d'ailleurs a commencé sa carrière comme auteur de romans prolétariens et de romans de protestation sociale, mais c'est Marcel Duhamel lui-même qui lui a demandé de passer au polar. C'est pour lui qu'il écrit sa grande série sur les deux détectives de Harlem, qui aura un énorme succès en France, moindre aux États-Unis, mais qu'on peut aujourd'hui voir vraiment comme un des grands moments, justement, d'émergence, disons, d'une culture afro-américaine dans le domaine du roman noir. Et on pourrait prendre d'autres exemples, bien sûr, pour d'autres minorités, mais ce qu'on peut dire, c'est effectivement une époque de cloisonnement où, disons, une culture blanche, masculine, hétéronormée, etc., domine vraiment le champ culturel. C'est par le roman noir, en partie, qu'arrivent des revendications minoritaires qui ne peuvent pas s'exprimer ailleurs.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Avez-vous quand même reçu, au moins à vos débuts, des encouragements qui vous ont été utiles?
Oh oui, de différents côtés. Oh, je me rappelle qu'une fois, je sais pas, oui, je peux le dire quand même, cette histoire-là, ça met quelqu'un en cause, ça met M. Roger Martin Dugard en cause, mais je pense pas qu'il se vexera de l'histoire. J'avais reçu une lettre de lui, et je ne m'en souviens pas des termes, enfin elle était, mon Dieu, très élogieuse, très très gentille en tout cas, pour moi. Elle était tellement gentille que j'ai cru que c'était un copain qui me faisait une blague, et que j'ai demandé ensuite à tous les copains, dis donc, c'est toi Roger Martin Dugard? Or pas du tout, c'était bien Monsieur Roger Martin Dugard qui m'avait écrit cette lettre. Alors j'en étais très content ensuite, quoi.
Benoît Tadier, dans la série noire, on trouve un festival de pseudonymes, et notamment des auteurs français qui se font passer pour des Américains, comme Jean Mecker, qui devient John Amila, notamment l'auteur de Y'a pas de bon Dieu, récemment réédité. On l'entend en 49 sur la RTF au micro de Jean Rabaud. Et il y a beaucoup d'auteurs qui font le pont entre la noire et la blanche, comme Amila, Pénac ou Benacquista, pour citer des contemporains. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur les nombreuses déclinaisons qu'a connues la série noire? Parce qu'il y a eu la Super Noire, la série Blême...
Alors oui, ce qu'il faut distinguer, je pense, c'est les premières collections qui sont à côté de la série noire, la série Blême en particulier, et puis plus tard la série Panique, qui sont deux inventions de Marcel Duhamel, qui pensait que tout son catalogue ou tout ce qu'il recevait ne pouvait pas entrer en série noire, et notamment ce qu'il appelait les romans d'angoisse ou de suspense. Et c'est pour ça qu'il avait décidé de créer une collection qui aurait été une petite sœur de la série noire, qui s'appelait la série Blême, qui est d'ailleurs assez belle, qui reprend la même jaquette, sauf que les couleurs sont différentes, elles sont vertes et blanches. Mais finalement, ce sont des échecs, car en réalité, je crois qu'il s'était trompé. Finalement, le roman d'angoisse, le roman de suspense, ça fait partie du roman noir. Donc, essayer de séparer les deux, c'était pas un bon pari. Et je crois que... Alors, il publiait, par exemple, dans la série Blême, des auteurs comme Goodis ou comme Earl Stanley Garner, mais aussi des auteurs féminins, qui publiaient plus volontiers là. Peut-être qu'il y avait un soupçon de machisme derrière ça, que dans la série noire elle-même. Mais une fois que ces collections se sont cassées la figure parce qu'elles ne trouvaient pas leur public, finalement, il a réimprimé les mêmes titres en série noire. Alors, parfois avec un bandeau suspense en rouge, mais finalement, on retrouve tous ces auteurs ensuite réintégrés au catalogue. Donc, je pense qu'il faut distinguer ces collections-là de ce qui devient ensuite la Super Noire. noire ou autre, qui sont en fait plutôt des collections qui succèdent à la série noire pour des questions de droit et des questions purement commerciales et économiques, qui n'ont pas finalement grand-chose à voir avec l'idée d'un corpus différent, d'un genre différent à l'intérieur du roman policier.
Marcel Duhamel avait ce fantasme d'une collection unifiée, mais c'est vrai qu'on trouve parfois quelques curiosités, et je pense notamment à moi, une série noire que j'adore, qui est donc... Tout à l'heure, j'ai parlé des Tueurs, le film de Robert Siodmak. Eh ben, c'est signé de son frère, c'est Kurt Siodmak, Le cerveau du nabab.
Absolument, c'est un très beau livre d'ailleurs. Cela étant, c'est une curiosité même aux États-Unis, puisqu'il était paru dans Black Mass, qui était justement le temple du roman noir aussi. Mais effectivement, il y a des éléments, disons, de science-fiction dans ce roman qui sont tout à fait frappants.
Parce qu'il y a quand même une cervelle, pour les auditeurs, je le dis, la cervelle d'un homme décédé qui continue de vivre dans un bocal et qui commence à manipuler les gens autour d'elle.
Absolument. Cela étant, c'est un thème qui, quand on y réfléchit, est un thème de roman noir aussi. De même que, par exemple, des thèmes comme les mains d'Orla, que vous voyez dans le cinéma expressionniste, quand on greffe les mains d'un meurtrier sur un brave type qui commence à se comporter comme un meurtrier. Il y a toujours cette idée de possession démoniaque et finalement de révélation à l'intérieur d'une personne qui est quelqu'un comme vous et moi, d'une espèce de fond maléfique qui revient à la surface. Et ça, c'est vraiment un des grands thèmes du roman noir.
Comme vous et moi, je ne suis pas sûre.
J'entends ça au sens très large, bien sûr.
Bien sûr. Qui est Eric Ambler ?
Eric Ambler est un très grand auteur britannique, lui, de romans d'espionnage, mais qui, alors donc, n'a pas été publié dans la série noire. Hein. Il a écrit, cela étant, des chefs-d'œuvre comme Le Masque de Dimitrios en 1939, qui sont de vrais romans noirs, parce qu'en fait, ce sont des romans, disons, d'intrigue internationale où de braves types anglais tombent dans des machinations, notamment montées par des fascistes et des gangsters qui le dépassent totalement. Et il sauve sa peau à la dernière page, en général, de manière rocambolesque. Mais enfin, c'est vraiment l'idée d'une sorte de découverte là aussi d'un monde totalement pourri. Et la grande période d'Eric Ambler, ce sont les trois ans qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale, où il balade ses héros en Europe de l'Est, à Constantinople, et il les fait tomber dans toutes sortes de machinations avec des personnages horribles, et des réseaux donc, de trafiquants de drogue, de prostitution, etc. Donc c'est vraiment toute une découverte, disons, d'une Europe en pleine décadence. Et je pense que c'est ça qui a fait son succès. C'est pas seulement un auteur, disons, de romans d'aventure, c'est vraiment une sorte de diagnostic, disons, d'une Europe en pleine décomposition à la veille de la Deuxième Guerre mondiale.
Il a été aussi scénariste et sa femme était la productrice d'Alfred Hitchcock.
Easy come. People are the ultimate spectacle.
And now you're going to see it, Yowza, the Derby! One couple and only one will waltz out of here over broken bodies and broken dreams.
Horace McCoy, c'est le premier Américain traduit dans la série noire en 1946 avec un linceul Napa de poche que vous avez préfacé, Benoît Tadier. Vous avez aussi édité son quarto. Je vous laisse faire les présentations. Là, on entend un extrait dont On achève bien les chevaux, son premier roman publié en 1935 et adapté au cinéma par Sidney Pollack en 1969 sur un marathon de danse.
Absolument. Alors le roman, lui, date de 1935. C'est un des grands romans sur la crise en Amérique. C'est un roman dont les anti-héros, on peut dire, sont deux figurants ratés à Hollywood qui n'ont pas réussi à trouver de travail, notamment parce que la femme du couple est une activiste politique, ce qui veut dire qu'elle est blacklistée. Et ils se retrouvent donc à tenter leur chance, comme ils peuvent, dans ce qui était à l'époque une des grandes scènes de la crise aux États-Unis. C'est le marathon de danse, qui était une épreuve terrible. Il fallait tenir le plus longtemps possible, des jours, des semaines entières, en tournant sur des pistes. Et puis le dernier couple encore debout pouvait espérer gagner un peu d'argent et un peu de célébrité et se faire embaucher peut-être au cinéma. Donc c'était vraiment une épreuve de jeu du cirque romain version moderne, et c'est ça que McCoy a eu le génie de transposer dans ce roman, qui est un roman absolument magnifique. Plus beau d'ailleurs que le film, je pense, qui a été fait 30 ans plus tard, qui retrouve pas tout à fait cette ambiance de crise, et puis surtout qui enlève un peu de la violence du roman, où il y a quand même plusieurs meurtres. C'est un roman qui est un roman assez dur, vraiment beaucoup plus dur encore que le film.
Et le film est déjà très dur.
Et le film est déjà très dur, mais moins justement que le livre, qui d'ailleurs a aussi cet autre incroyable intérêt, qui est cette espèce de montage qu'il a, puisqu'il alterne deux scènes en réalité, qui est l'histoire d'un côté, et puis de l'autre, l'énoncé de la sentence de condamnation à mort du personnage principal, qui commence dès la première page et se termine à la dernière, et qui s'interrompt tous les trois mots pour laisser place à un chapitre du livre raconté à la première personne, avec cet effet typographique extraordinaire que la sentence au début démarre sur la première page en caractère extrêmement petit et finit en caractère énorme avec l'énoncé de l'exécution qui attend le personnage. Donc c'est un effet tout à fait percutant, on peut dire, visuellement. Et il y a plein d'effets d'avant-garde comme ça chez McCoy, qui était vraiment un écrivain complètement hors norme.
Thank you.
entend la musique de Jean Wiener pour le film « Touchez pas au Grisby » de Jacques Becker, adapté du livre d'Albert Simonin, le premier grand film de gangster réalisé en France. Et j'ai relu « Touchez pas au Grisby », Benoît Tadier, et il y a de l'argot à chaque ligne. Et sachant que pourtant j'ai roulé ma bosse en termes d'argot, c'était difficile à comprendre, comme chez Auguste Le Breton ou Ange Bastiani.
C'est vrai, tout ça a très mal vieilli, il faut le dire, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'était déjà difficile à l'époque où c'est sorti, puisque le film d'ailleurs a dû être sous-titré pour le public français, pour qu'on comprenne de quoi il s'agissait. Donc c'est bien la preuve que finalement l'attrait, c'était pas tellement d'en raconter une histoire qui est la nôtre, c'est plutôt montrer cet univers des bas-fonds, de la pègre, disons, de Montmartre ou autre, comme un univers à part, ce qui, d'une certaine manière, est assez profondément différent de ce qu'il y a aux États-Unis, où au contraire, il faut montrer que le crime, il est partout, il est en nous, il est autour de nous. Là, c'est comme si c'était un univers un peu exotique, finalement, qui habitait le 18e arrondissement de Paris, mais qui n'existait pas ailleurs.
Les débordements de la jeunesse moderne, ses multiples excès de toutes sortes, ont fini par alerter l'opinion.
Résultat, elle finira au tapin. Et ce sera de ta faute.
Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comics, ça va saigner.
Le cinéma français se devait de réagir et de donner l'exemple. Cet exemple aurait mérité de s'intituler « Discours de la méthode », mais le titre était déjà pris. Il s'appelle donc « Les tontons flingueurs », ce qui veut dire sensiblement la même chose.
Les tontons flingueurs de Georges Lautner, sorti en 63, adaptation du roman « Grisby or not Grisby » d'Albert Simonin. C'est la suite de « Touchez pas au Grisby », avec les dialogues de Michel Audiard, qui dans la série noire a trouvé matière pour 24 des films sur lesquels il a travaillé. Il disait « À part quelques exceptions, la bonne littérature est incompatible avec le cinéma. Une série noire, un roman populaire, se prête mieux à l'adaptation. » Est-ce que vous êtes d'accord, Benoît Tadier ?
Non, d'ailleurs, je pense que... Opposer ainsi la bonne littérature à la série noire, c'est quand même scandaleux. Surtout de la part de quelqu'un qui en a tellement profité lui-même.
Il donc, charrie Michel Audiard.
Oui, complètement, mais c'est bien dans son style, genre. On peut dire.
Quand on est au fond de la nuit, on ne peut pas arrêter la nuit. Il fait sombre, de plus en plus sombre.
Je te présente Charlie, le pianiste.
Bonjour.
Vous connaissez les types qui en veulent à votre frère ? J'ai l'impression qu'ils nous suivent.
Qu'est-ce que tu regardes ?
J'ai peur.
Musique Georges Delerue, tirée sur le pianiste de Truffaut. C'est l'adaptation du livre de David Goudis. Et chose assez amusante, David Goudis trouvait les dialogues du film de Truffaut trop argotiques. Benoît Tadier, vous avez signé la préface du livre à la série noire et vous dites qu'on trouve une adaptation plus fidèle chez Jacques Tourneur.
Oui, mais d'un autre roman, il s'agit de La nuit tombe, et on trouve aussi une adaptation encore plus fidèle, si on veut, d'un autre roman de Goudis, qui est Le cambrioleur, par Paul Venkos, si on veut vraiment voir à quoi ça ressemble. Cela étant, je pense que le film de Truffaut est quand même un très beau film, et qu'il ne manque pas de mérite. Et Truffaut, d'ailleurs, avait un très grand respect pour David Goudis, il l'a dit souvent, lui c'était un grand écrivain, à l'époque où personne ne disait que c'était un grand écrivain.
Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur Burnett et sur Jim Thompson, que j'adore personnellement, qui est à la fois très très drôle et terriblement noir? Je pense qu'il y a des romans de Jim Thompson qui ne pourraient plus sortir aujourd'hui.
Probablement.
Comme Rage Noire.
Oui, alors effectivement, mais d'abord parlons de Burnett, si
bien
vous voulez.
Sûr.
Burnett, c'est un très grand inventeur. Ce n'est pas d'ailleurs un homme issu des Pulp Magazine, mais plutôt du roman réaliste. Son grand modèle, c'était Balzac. Il adorait aussi Simenon, vous voyez, donc, et Marcel Aimé. Donc on n'est pas du tout dans la tradition américaine. Mais il a su adapter, disons, des outils du roman réaliste à de nouvelles scènes. Et il a inventé plusieurs choses. Il a inventé notamment toute la saga du gangster telle qu'elle s'est développée tout au long du XXe siècle. D'abord, l'histoire du gangster lui-même à travers Little Caesar, inspiré de l'histoire d'Al Capone. Ensuite, l'histoire de la cavale du gangster dans High Sierra, qui a donné un très beau film avec Humphrey Bogart. Et puis un troisième scénario de gangster, qui est celui de Asphalt Jungle, Quand la ville dort, qui est le roman de Cass. C'est-à-dire tous ces personnages mal assortis qui se mettent ensemble pour faire un coup, et puis évidemment sa foire. Alors c'est quelque chose qui a été refait 12 000 fois, mais c'est lui qui a inventé tout ça, et c'est donc un prodigieux inventeur d'histoire. En ce qui concerne Jim Thompson, c'est quelque chose de très différent. C'est vraiment un écrivain complètement torturé, tourmenté, qui vient à l'origine de la gauche américaine, de la gauche un peu prolétarienne, qui est un écrivain assez pauvre, qui a ramé toute sa vie, qui n'a jamais eu beaucoup de succès, qui a été d'ailleurs privé de son succès lorsqu'il était à la porte et qui faisait des scénarios pour Stanley Kubrick. C'est lui qui a fait les dialogues de The Killing et puis de Des Sentiers de la Gloire de Kubrick, mais il n'a même pas été suffisamment reconnu au générique pour en tirer les bénéfices. Bref, c'est quelqu'un qui était lui-même porté par une rage terrible vis-à-vis de l'Amérique et qui l'incarne dans des romans dont Grande Nouveauté, le narrateur est lui-même souvent un fou psychopathe. Et pour la première fois, on rentre complètement à l'intérieur, disons, du cerveau et de la mentalité d'un criminel rageur qui en veut à tout le monde. Ça donne un effet absolument extraordinaire, à la fois d'attraction et de répulsion, qui n'a jamais été dépassé depuis, je pense.
Alors, je pourrais citer évidemment des auteurs français comme Jean-Patrick Manchet, Thierry Jonquet, ADG, mais je suis avec un spécialiste des anglo-saxons. Alors, je vais vous poser une question sur James Ellroy, qui lui est publié en France chez Rivage. Vous pensez qu'il est héritier de qui dans la série noire, ou dans le roman noir en général ?
Je pense qu'il est héritier de toute une tradition californienne, mais il est surtout héritier de sa propre histoire. C'est vraiment un des derniers grands inventeurs, disons, de style à l'intérieur de la tradition du roman noir. On sait qu'il a été lui-même traumatisé par son histoire familiale.
Sa mère a été assassinée.
Il a du coup surinvesti toute l'histoire de Los Angeles dans les années 50 autour du meurtre de sa mère, et notamment une autre affaire qui finalement n'est que la transposition pour lui de l'affaire non résolu aussi du meurtre de sa mère, qui est la célèbre affaire du Dahlia noir. Et en réalité, à partir de là, ce dont il s'inspire le plus, ce n'est pas tellement la tradition romanesque, c'est la tradition du fait divers. Et c'était un extraordinaire dévoreur de magazines de faits divers. C'était sa véritable passion. Il lisait ça du matin au soir, comme si vous lisiez vous, détective ou nouveau détective, du matin jusqu'au soir. Et c'est finalement ça qu'il a transposé dans son roman, un style extraordinairement documentaire, brutal et extrêmement elliptique aussi, avec des phrases très courtes, très rythmées. Une sorte de rythme jazz qui s'impose de plus en plus, qui parfois arrive, en tout cas dans ses premiers romans, à une intensité vraiment extraordinaire. Puis après, je pense que ça décline un petit peu quand même. At night I tell you people, when that cold, cold sun goes down. At night I tell you people, when that cold, cold sun goes down. I cry, I sigh, I wanna die, 'cause my baby's not around. What's the matter, pretty baby? Tell me, what's your daddy done? Won't you tell me, pretty mama, what's your daddy done? You got to come and hold me for the morning sun.
Hi, baby, what's shaking? Paco wants to buy you a drink, and I want to buy you a shiny new car. Too bad about Lady Care.
Yeah, they bobbed her nose.
Believe me, pretty mama, it's not just me I know. Believe me, pretty mama, it's not just me I know. I just can't make that jungle outside of my front door.
C'est l'un de vos choix musicaux, Benoît Tadier, Harry Belafonte, My Baby's Not Around, tiré du film de Robert Wise, Odds Against Tomorrow, Le coup de l'escalier en français.
Qui est aussi une série noire, donc il ne faut pas l'oublier, de William McGivern au départ, 1957. Le film est de 58. Pour moi, ça marque vraiment un des grands points de jonction entre la culture noire américaine, justement, et le roman noir, justement, avait été un petit peu tenu séparé jusque-là. Chester Himes, ça démarre à la même époque, 58-59, dans la série noire. Et on voit ici une histoire, donc, extraordinaire, où deux personnes sont associées dans un même, enfin trois en réalité, mais deux en particulier dans un même casse, un blanc raciste et un noir que la mafia fait chanter. Et finalement, ils se retournent l'un contre l'autre et la violence raciale est montrée d'une manière extraordinaire, particulièrement le racisme du blanc, qui dans le film est incarné magnifiquement, il faut le dire aussi, par Robert Ryan. Et Belafonte jouant justement lui-même le rôle du noir. Alors, quand on sait que Belafonte était lui-même un activiste politique, c'était un ami de Martin Luther King, c'était un des grands acteurs noirs à avoir émergé dans les années 50. Donc on sent qu'il a vraiment mis toute sa personne et toutes ses croyances dans ce film. Et on voit ici donc un très beau roman qui devient un très beau film, qui pour la première fois apporte à la fois cet élément du blues qui chante ici, mais en même temps cette idée d'un conflit racial comme étant finalement au cœur du roman et peut-être au cœur aussi des problèmes de la société américaine.
My name's Marlowe, General Sternwood wanted to see me.
Yes, Mr. Marlowe. Will you come in, please, sir? I'll tell the general that you're here.
Oh, thank you.
You're not very tall, are you?
Well, I tried to be.
Not bad looking. Oh, you probably know him.
Thank you.
What's your name?
Riley, Dorgas Riley.
That's a funny kind of name.
Think so?
What are you, a prize fighter?
No, I'm a shamus.
What's a shamus?
It's a private detective.
You're making fun of me.
Bon, je termine par mon préféré, c'est Raymond Chandler, natif de Chicago, mi-américain, mi-irlandais, qui a passé son enfance en Angleterre, sa jeunesse à Paris et à Londres, qui a commencé comme journaliste et poète avant de s'installer à Los Angeles. Et là, on entend The Big Sleep, Le Grand Sommeil, adapté à l'écran en 46 par Howard Hawks avec Humphrey Bogart dans le rôle du détective Philippe Marlowe, traduit par Boris Vian en 48. Et par vous, Benoît Tadier, très récemment, vous n'avez pas été écrasé par votre prédécesseur ?
Si, complètement. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas lu ce qu'il a fait de manière à me sentir un peu plus libre de traduire moi-même.
Mais jamais ? Ou dans le passé, vous l'aviez quand même lu ?
J'avais fait quelques sondages pour me dire, bon, peut-être que ça vaudrait quand même le coup d'être traduit, parce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire différemment. Mais je me suis bien gardé, au moment où je traduisais, d'aller regarder ce qu'il avait fait lui-même.
Parce que chez lui, on trouve Va te faire doré, chez vous, ça devient Va te faire, qui est plus moderne, évidemment. Chez lui, on trouve Boucle d'ange, chez vous, ça devient Perruque d'argent. À un moment, il affirme que Marlowe, que sa gueule de bois est causée par les femmes. Alors Vian écrit « Les femmes m'avaient rendu malade, et vous, les femmes me faisaient vomir ». Qu'est-ce que c'était en anglais ?
« Women make me sick ». Donc ça peut se comprendre des deux manières, mais... To make sex, ça veut aussi donner la nausée, si vous voulez. Et je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, d'assez un petit peu étrange chez Philip Marlowe. C'est une espèce de rejet de misogynie profonde, parfois physique, qui a pour contrebalancement, on pourrait dire, une attraction platonique pour les hommes qui est assez forte.
Alors, j'aurais aimé comparer évidemment les versions de Vian avec la vôtre, mais je vais vous demander, faute de temps, de choisir le paragraphe que vous voulez, peut-être votre traduction du fameux début du Grand Sommeil de Chandler.
Il était environ 11h du matin, à la mi-octobre, le soleil ne brillait pas et une pluie forte et pénétrante s'annonçait dans la clarté des collines au pied des montagnes. Je portais mon costume bleu poudre avec chemise, cravate et pochette bleu foncé, brogue noire, chaussettes de laine noire à motif bleu foncé. J'étais net, propre, rasé, je n'avais pas bu et je n'avais pas honte qu'on le sache. J'étais tout ce que doit être un détective privé élégant. Je rendais visite à 4 millions de dollars.
Dans un article que vous avez consacré à Chandler, vous soulignez les thèmes de la disparition et de l'absence, mais autant des êtres que de la ville qu'il a connue, Los Angeles, quand il s'y est installé.
Tout à fait. Je pense que la clé de l'univers de Chandler, c'est la nostalgie en réalité. Et c'est ce qu'il a introduit, alors que Hammett n'était pas du tout nostalgique. Hammett, il est plutôt dans le slapstick. Chandler, c'est un grand nostalgique.
Nostalgie aussi de la figure littéraire qu'il aurait pu être.
Absolument. Je pense qu'il aurait aimé être un poète célèbre à la manière de T.S. Eliot, qui était son exact contemporain, qui était aussi un Américain, qui était parti en Angleterre pour devenir poète et qui, lui, avait réussi à avoir le prix Nobel, ce qui n'est pas le cas de Chandler, qu'il aurait bien mérité pourtant.
Ah oui. Et alors, il a écrit 7 romans, il a écrit tellement de choses. Bon, sa correspondance est merveilleuse. Moi, je la recommande aussi aux auditeurs qui aiment Chandler. Et vous, quels sont les titres qu'il faut absolument avoir lus de lui ?
Je pense qu'il faut avoir lu ses nouvelles, qui sont très belles, qu'on néglige souvent. Et puis, dans ses romans, tout est beau, sauf peut-être le dernier, qui est un scénario qu'il a un peu rafistolé à la fin de sa vie, quand il n'allait plus très bien. Mais les six autres sont magnifiques.
Ouais, et dans sa correspondance, quand sa femme, qui était beaucoup plus âgée que lui, meurt. Et il dit que toute sa vie, en fait, il n'a cherché qu'à l'impressionner. Et ça fend le cœur. Il dit « Nous, les durs, on a l'air durs, mais en fait, on a le cœur tendre. » Et c'est magnifique.
C'est juste.
Merci beaucoup.
Merci
Benoît
à vous.
Tadier. Puis peut-être encore juste par gourmandise, un titre de série noire que vous recommandez aux auditeurs, n'importe lequel.
À tombeau ouvert de Paul Kane.
Parfait, merci beaucoup. Votre nouvelle traduction du Grand Sommeil de Raymond Chandler et vos préfaces de Chandler, de Tirer sur le pianiste de David Goodis sont parues chez Gallimard dans la collection Série Noire Classique ainsi que celle de Gertrude Walker à contre-voix. Vous pouvez retrouver l'histoire complète de la série noire à travers un fascicule anniversaire disponible en librairie, mais surtout à travers le formidable ouvrage collectif illustré « C'est l'histoire de la série noire ». Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Pascal Dacibat et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Julien Dumont.